Salutations à chacun de l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Les anciens m'ont demandé de conclure cette série que nous avons vue ensemble sur les noms de Dieu, les promesses de Dieu, promesses faites, promesses accomplies. Puis j'avais pensé, vu que nous allons fermer cette série, d'y aller avec les héritiers des promesses de Dieu. Vous savez, des noms de Dieu, il y a plus de 200 noms composés de Dieu dans la Bible. On aurait pu parler longtemps de tout cela, puis continuons de méditer et d'étudier les noms de Dieu qui nous révèlent son caractère, qui nous révèlent sa personne. Connaître Dieu. Et connaître Dieu va nous aider chacun de nous à vivre nos vies chrétiennes d'une manière digne de l'Évangile. Connaître Dieu, c'est connaître qui il est, qu'est-ce qu'il fait, son caractère, ses attributs moraux, non moraux. Dieu est un Dieu extraordinaire, puis il a fait des promesses. Et j'avais pensé prendre 7 promesses que Dieu a faites à des catégories de gens et de partager ça avec vous simplement ce matin. Alors, les héritiers des promesses de Dieu, les héritiers. Vous savez, il y a toutes sortes de promesses. Il y a des promesses encourageantes et des promesses décevantes. Souvent, dans nos vies, on est affecté par des personnes qui nous ont trahis avec les promesses. Une chose certaine, c'est que lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit en son temps. Les promesses arrivent un derrière l'autre. Et si on regarde le passé comme le futur de nos vies, on a sûrement, chacun de nous, vécu des bénédictions des promesses de Dieu. Des bénédictions des promesses de Dieu. Donc, on va y aller avec la première promesse qui va peut-être vous surprendre. Mais je pensais, la seule promesse qu'il y a dans la Bible concernant Lucifer, une seule promesse qui est faite à Lucifer, que j'aimerais regarder avec vous rapidement, le plus bel ange du paradis, le lumineux, contraire à Hollywood, qui nous présente si souvent. Pas tout le temps, mais si souvent, Satan, Lucifer, comme une sorte de personne avec des sabots, puis des cornes, puis des grandes bouches de boucles, et tout ça. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. On va regarder ensemble la promesse. La promesse est en Genèse 3,15, qui est faite à l'ennemi de nos âmes. Dans Genèse 3,15, la proto-évangile. Tout de suite après la chute, après avoir parlé et le Seigneur donné la punition au serpent physique, il va se tourner vers le serpent spirituel, qui va dire ceci: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors on voit ici cette promesse faite à Satan. Faite à Lucifer, que la postérité de la femme, et c'est vraiment important, mes amis, la postérité de la femme, ce n'est pas la postérité de l'homme, mais la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et tout de suite, on voit le plan de Dieu de rédemption, le Messie qui va venir de la femme, qui va naître, l'incarnation de Jésus-Christ, qui va naître un jour pour venir sauver l'humanité. Et lorsqu'on regarde tout cela, l'inimitié, c'est qu'il y a un mur de séparation. Parce qu'on voit sur la terre qu'il y a deux sortes de paternité. Vous savez, dans Jean 8, 31, beaucoup de gens viennent voir Jésus parce qu'il a fait un beau discours. Puis ils veulent croire au Seigneur. Puis ils disent: « Seigneur, on veut croire en toi. » Le Seigneur va dire: « Si vous croyez en moi vraiment, vous allez demeurer dans ma parole. » Et dans le verset 8, 44, dans Jean, ces mêmes personnes qui étaient venues auprès de Jésus, il leur dit: « Vous avez pour père le diable. » À quelque part, il y a une prospérité diabolique puis une prospérité divine qui vient de Dieu. À quelque part, il y a ceux qui aiment et qui acceptent Dieu. Puis à quelque part, il y a ceux qui refusent et haient Dieu et s'en soucient pas du tout, du tout, du tout. Donc, on peut voir qu'il y a un mur de séparation. Et lorsque Dieu regarde sur la planète Terre, il voit très, très bien à quelle paternité nous appartenons, dépendant de ce que nous faisons. Donc, entre toi et la femme, voyez le contexte, le contraste entre toi et la femme, entre sa prospérité et ta prospérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans l'original, c'est mordre le talon. Alors, on voit ici la défaite de Satan, une promesse accomplie qui s'accomplit et s'accomplira dans le futur, dans le sens qu'elle traverse le temps. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds, sur vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Une exclamation à la fin de l'Épître aux Romains que l'apôtre Paul va nous rappeler, ce proto-évangile, va nous rappeler cette promesse qui a été faite et qui va être faite et qui va s'accomplir de plus en plus au travers du temps. Alors, on voit dans Ézéchiel que Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Alors, c'était vraiment un être haut en couleur et haut aussi en position de gloire. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alors, on voit ici Satan qui était le diable, Lucifer, qui était justement avant qu'Adam et Ève soient, qui était dans le ciel en rébellion contre Dieu. C'est ce qu'il était. Alors, Dieu a fait une promesse. La victoire de Dieu sur le diable. Ainsi donc, puisque les enfants participant au sein et à la chair, il y a aussi participé lui-même. On parle ici de l'incarnation de Jésus-Christ. Pourquoi? Afin que par la mort, il, Jésus, rende impuissant, la rende impuissante, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et on voit que ceci était accompli et à la croix, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vaincu Satan, qui a monté sur cette croix, qui a pris nos péchés pour en faire ses péchés, puis a pris sa justice pour en faire notre justice et nous offrir la vie éternelle, il a vaincu la mort. Alors, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il a vaincu le diable et la fin de cet ennemi de nos âmes va arriver un jour. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 55-57, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans 1 Corinthiens, on voit l'exclamation de l'apôtre Paul qui cite ici la parole de Dieu qui dit « Ô mort, où est ta victoire? » Parce que Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, on a été rendu vivant, victorieux par rapport à la mort. La mort est quelque chose de fini pour nous, car nous vivons en Jésus-Christ. Et dans Jean 11, n'est-ce pas, 11:35, on voit que Jésus, qui est la résurrection et la vie, nous dit, lorsqu'il a pleuré, lorsqu'il a vu Lazare, qui est ressuscité, qui a ressuscité des morts, il l'a vu sortir du tombeau, et il a dit, « Je suis la résurrection et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. » Alors, la définition de la mort est complètement changée pour les enfants de Dieu à ce moment-là. La victoire est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et la fin de l'accomplissement de la promesse, nous allons le voir dans Apocalypse 21:4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. » Et là, c'est l'accomplissement total de cette promesse qui a parcouru des siècles. Et la fin de toute chose arrive un jour, mais un jour aussi, ça va être fini. Les douleurs, les cris, la mort. Et c'est une des promesses de Dieu qui est là pour les enfants de Dieu. Il y a la promesse faite et promesse tenue à Israël. Je voulais mentionner Israël aussi, il y a un bloc de promesses extraordinaires face à Israël. Israël. Mais qu'est-ce qui arrive avec Israël? Israël, le peuple choisi par Dieu. Et la déclaration d'amour de Dieu pour Israël, ici dans Deutéronome 7, 6 à 11, on peut lire ceci, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que tu surpasses en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Cette déclaration de l'Éternel démontre, à fin de compte, que l'Éternel s'est attaché à Israël. Il a choisi Israël. Et c'est Dieu qui a fait cela. Et le verset 8 nous montre cette déclaration d'amour encore plus de manière plus explicite. Il dit, « Voici, ce n'est pas parce que tu es le plus grand des peuples, le meilleur des peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Sa main puissante vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Dieu leur rappelle la fidélité de l'Éternel. Alors, l'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est car ce Dieu est ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Encore une observation pour Israël. Dieu, encore aujourd'hui, a des plans pour Israël. Il y a des plans, des prophéties, des promesses qui ont été vraiment accomplies. Le retour d'Israël en 48 qui est rentré en Palestine, et toutes ces choses-là qu'on voit au Moyen-Orient aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de promesses ont été accomplies. Parce que Dieu garde ses promesses. Dieu garde ses promesses. La troisième promesse que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est cette promesse faite à toute l'humanité. Et là, je voudrais souligner tout simplement un auteur, Pierre d'Espagne, qui aujourd'hui est décédé, mais ses livres sont sur Internet gratuits. Si vous voulez écrire Pierre d'Espagne, vous allez voir, ses livres sont là. Avec un petit don, vous pouvez avoir ses livres sur la prophétie. Un monsieur qui a passé sa vie à étudier la prophétie, les promesses de Dieu, que ça va arriver, les choses qui vont arriver. Et je vous encourage à aller les voir. Il y a aussi un livre merveilleux qui parle du Messie de la Bible, très, très intéressant. Je vous encourage aussi de me contacter, puis j'ai plusieurs copies à la maison, je pourrais vous les faire parvenir. Alors, cette promesse à toute l'humanité, qu'est-ce que Dieu promet à l'humanité? Et la parole a été faite chair, le Messie parmi nous. Et le Messie va rejoindre la proto-évangile qu'on a vu tout à l'heure dans Genèse 3:15. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, j'aimerais souligner, frères et sœurs, que l'incarnation, c'est-à-dire 100%, celui qui est Dieu est devenu un vrai homme, qu'on voit dans Philippiens 2, n'est-ce pas? Alors, il a été fait chair et plein de grâce et de vérité, et c'était la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est venu pour l'humanité. Jésus est venu pour régler le problème de l'humanité concernant le péché. Il est venu premièrement détruire l'ennemi de nos âmes, le rendant inefficace, enlevant sa puissance à la croix. Et il est venu ici bâtir son Église. Puis il l'a dit lui-même, « Je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle, car Dieu est souverain et Dieu a un plan pour l'univers, il a un plan pour l'Église, il y a un plan pour Israël, et il y a un plan pour ma vie. Il y a un plan pour votre vie. » Alors, les promesses de Dieu pour l'humanité est là. Après la chute, Dieu n'a pas scrappé l'humanité. Il aurait pu débrancher l'humanité comme nous, on débranche une télévision. Mais il n'a pas fait cela. Tout de suite au début, il a pourvu un moyen de rédemption, un moyen de salut, un moyen pour venir chercher les humains qui ont été séduits par l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et c'est des versets qu'on prend souvent dans le temps de Noël, hein? Alors, voici ce signe. Voici la vierge ou la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on connaît aussi le verset de Isaïe 9:5 qui dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Avez-vous remarqué, un enfant est né, mais le fils a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Chers amis, on a ici une description de cette belle promesse que Dieu a faite à l'humanité, que Dieu a promis qu'il était pour intervenir. Il est intervenu. Et on voit ici que la jeune fille qui est devenue la postérité d'Ève, en fin de compte, c'est de elle que vient l'incarnation, c'est-à-dire le germe de l'Éternel qui a fécondé Marie. Et Jésus est sorti de Marie. Et c'est pour cela qu'il faut, comme croyant, donner gloire à Dieu parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Mais il est devenu un vrai homme pour nous. Alors, c'est vraiment des belles promesses pour l'humanité de savoir que celui qui nous a créés ne nous a pas laissé tomber lorsqu'on a péché, lorsqu'on s'est rebellé contre lui. Mais par amour pour nous, il est venu nous chercher. Il est venu lui-même sur cette planète Terre. Imaginez-vous combien que c'était toute une épreuve pour lui. Le Dieu fait homme, comment marcher sur cette terre remplie de haine, remplie de péché. Mais il l'a fait pour nous. Et j'imagine des fois, c'est comme nous, si on irait dans une dompe, plein de poubelles, plein de cochonneries, plein de senteurs puis de puanteurs. On aurait de la misère à rester là. Mais le Seigneur, lui, a eu vraiment un temps sur la terre qui était difficile. Mais il a resté pour nous, il a marché parmi nous, malgré notre méchanceté et malgré tout ce que nous l'avons fait de lui, aucun cas. Isaïe 53 en parle beaucoup. C'est un beau chapitre à lire à un moment donné pour méditer la souffrance du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La quatrième promesse que j'aimerais partager avec vous, c'est cette promesse faite, promesse tenue. C'est un bon principe à chaque enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me promet à moi? Hein? On pense toujours, OK, Dieu promet ça à Israël, Dieu a promis ça à Lucifer, puis il agit encore, puis il va agir en dernier. Dieu va mener sa promesse à bon port. Dieu a promis ça à l'Église. Mais qu'est-ce que Dieu promet à moi comme enfant de Dieu? Bien, mes chers amis, réjouissez-vous. Car votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est COVID-19, OK? Quand ce n'est pas COVID-19, c'est d'autres choses. La grippe espagnole, ce n'est pas la grippe espagnole, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale. Puis on peut reculer 600 ans avant Jésus-Christ. Antioche et Epiphanes en montant. Puis moi, ce que j'ai regardé, là, c'est que des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des pestilents, des famines. Il y a toutes sortes d'affaires de même sur la planète Terre. Beaucoup de souffrance. Il y a de la joie, mais il y a de la souffrance. Alors, que faire? Quelle attitude avoir? Mais moi, quand j'étais en train de préparer cela, frères et sœurs, je pensais aux promesses de Dieu pour moi, pour me donner de l'espoir, pour me donner de la joie de vivre, pour me donner au travers des épreuves, des inconvénients qu'on a à vivre présentement, c'est pour me donner quelque chose à regarder, à méditer. Puis une des promesses que j'ai réalisées, c'est la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Arrêtons 2 secondes, pensez à ça. La vie éternelle. C'est donc facile à dire parmi nous, n'est-ce pas? Notre jargon évangélique, vie éternelle. Cette belle promesse qu'il nous a faite. Est-ce qu'on réalise que vivre éternellement, ça défie toutes les données scientifiques qu'on peut trouver sur la planète Terre? Est-ce qu'on réalise que vie éternelle, et c'est intéressant, le mot lui-même dans l'original, c'est un mot qui ne parle pas juste de longueur, c'est pas que ça dure longtemps. Oui, ça dure longtemps, mais l'emphase est sur une vie éternelle de qualité. C'est une vie de qualité que Dieu nous propose, une vie de tellement de qualité qu'elle dure éternellement avec lui. Et cette belle promesse, c'est là. On a mal aux genoux, on a mal dans le dos, on a mal à la tête, mais on a la vie éternelle. C'est comme le gars qui se promenait, puis il se disait, il ne peut plus rien m'arriver, j'ai subi tous les malheurs du monde. Puis le gars à côté, il a dit, « Oui, tu as subi tes malheurs du monde, mais as-tu remarqué que tu es capable encore de parler? » À quelque part, il y a toujours quelque chose de bien. C'est comme les deux madames qui se promenaient sur la rue, et puis ils voient arriver un gars en sifflant qui était ivre. Il se promenait à gauche pas à droite. Et puis les deux madames le regardaient de travers, puis il a passé entre les deux madames en les divisant. Ils n'ont pas aimé ça. Il y en a une qui a dit, « Es-tu baveux, ce gars-là, d'avoir fait ça? C'est un ivrogne, c'est un bon rien. » L'autre lui a dit, « Oui, mais as-tu remarqué qu'il sifflait bien? » Il y a toujours moyen de voir une situation où c'est quelque chose de bien. Même un tas de fumier, c'est quelque chose de bien. Les petits oiseaux vont y manger. Et à quelque part, lorsque Dieu permet des affaires, il y a toujours une bonne réflexion, il y a toujours un pourquoi. Et ça, c'est important. Puis cette promesse de la vie éternelle, c'est une promesse qui nous garde solide sur nos pieds, parce que prenons pas pour acquis le mot lui-même, mais prenons la signification du mot, qui est une vie de qualité pour Dieu, une vie qui dure pour Dieu. Il nous a fait, c'est la vie éternelle. D'autres textes aussi qu'on connaît très bien, n'est-ce pas? Des fois, je le cite, puis je me dis, je vais trop vite, puis je veux laisser pénétrer ce verset-là dans vos cœurs, chers frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé. Est-ce que vous avez vécu des expériences d'amour qui vous poussent à faire des choses extraordinaires ou des choses que normalement vous ne feriez pas? On a tous vécu des micro-pulsions d'amour. Imaginez, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui sait tout, qui peut tout, nous a tant aimés. A tant aimé le monde. Le monde, c'est moi, Michel. Il y en a beaucoup qui mettent le nom dans ce verset-là. Mon épouse est venue au Seigneur. Diane est venue au Seigneur comme ça, en mettant son nom. Car Dieu a tant aimé Diane, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, la vie éternelle, elle vient parce que Dieu ne veut pas qu'on périsse, mais veut qu'on ait la vie éternelle, une vie de qualité puis une vie de longueur. Mettez votre nom dans ça si vous n'êtes pas converti à Christ. Vous allez voir que c'est un message personnel. C'est une promesse personnelle que Dieu nous fait. On est les héritiers de cette promesse. L'humanité peut s'approprier de cette promesse pour elle-même. Et ça se présente dans des temps où on a besoin d'entendre des promesses et saisir des promesses qui viennent de Dieu, la vie éternelle, et compter nos bénédictions spirituelles. Éphésiens 1:3 nous dit « Comptez vos bénédictions spirituelles, contemplez vos bénédictions spirituelles. » Et la bénédiction spirituelle, c'est que Dieu nous donne une vie éternelle, une vie de qualité et de longueur. Et cette vie commence dès notre conversion. Lorsqu'on devient enfant de Dieu. Elle ne commence pas lorsqu'on décède, non. Ça commence maintenant, dans notre vivant. Et un autre beau verset que j'aimerais mentionner ici, c'est dans 1 Jean 5:13, un verset qui nous dit avec certitude, qui nous affirme cette belle promesse, les récipients, les héritiers de cette belle promesse. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que ça peut être plus clair? Si c'est clair pour vous, réjouissez-vous. Prenez cette promesse, gardez cette promesse. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez la vie éternelle. Quelle belle promesse. Éternellement avec Dieu. Ça, c'est une promesse qu'on doit chérir dans nos cœurs. Êtes-vous encore émerveillé de votre grand salut? Ou ça fait trop longtemps que vous circulez dans les milieux évangéliques et vous entendez toujours les mêmes choses? Est-ce que vous êtes encore émerveillé de votre grand salut? Souvenez-vous, la première fois que vous avez saisi Jésus-Christ, vous avez saisi votre salut, vos émotions, ce que vous ressentiez en dedans. Souvenez-vous de cela. C'était émotionnel et tout ça. Mais est-ce que c'est encore comme cela? Lorsqu'on lit ces versets, on voit l'amour de Dieu pour nous. On voit que Dieu nous assure que nous avons la vie éternelle. Croire Dieu, frères et sœurs, c'est donc important. La cinquième promesse, qui est une promesse de la sécurité éternelle. Là, vous allez peut-être dire, oui, je me réjouis, j'ai la vie éternelle, mais ça dure-tu tout le temps, ça? Je peux-tu perdre le salut? Je peux-tu le saboter en m'en allant? Est-ce qu'il reste des choses à faire pour rester sauvé? Il y a certains faux prophètes qui enseignent ça. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. La parole de Dieu est claire. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne les ravira, hein? Et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père, hein, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a deux personnes que nous pouvons voir là, cela. Premièrement, mes brebis, c'est vous. Vous avez entendu la voix de Dieu. Le Seigneur vous connaît, puis vous suivez le Seigneur. Il y a le verset 28, ici, que le Seigneur dit, « Je leur donne la vie éternelle. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. » Et chers frères et sœurs, on pourrait continuer à citer les versets. Ici, j'ai un petit dépliant qui s'appelle « Ils ne périront jamais ». Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous avez des doutes sur votre salut éternel, contactez-moi, je vais vous faire parvenir ce petit dépliant. « Ils ne périront jamais », qui est de quelques pages, peut-être une quarantaine de pages, qui va plus en profondeur, qui cite 43 versets du Nouveau Testament, qui dit que le salut ne se perd pas. La persévérance des saints est garantie par Dieu. Et Dieu, le Père et le Fils, nous gardent dans leurs mains. C'est comme ça. La main du Fils et la main du Père. Et on est gardé. Cette belle image que Dieu nous garde à deux mains. Hein? On dit des fois, le dicton qui dit, le gars, il gardait son argent à deux mains. Hein? On veut dire, c'est un gars qui l'aimait, son argent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang pour nous, par amour pour nous. Lorsqu'on a saisi Jésus-Christ, on l'a accepté comme sauveur personnel, on est saisi dans les mains de Dieu. On est gardé dans les mains de Dieu. Sixième promesse, rapidement, promesse. C'est la promesse du retour du Seigneur. Là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'ai tenu à mettre cette catégorie de promesses. On a vu ces noms de Dieu qui est extraordinaire, les quatre premiers à tous les cas. Il y en a beaucoup, mais à quelque part, quand on dit Jésus, on dit mon Sauveur, mon Seigneur, on dit Adonai, ces choses-là. Derrière ça, il y a un plan. Il y a un plan pour l'univers. Pensons pas que la vie va toujours continuer sur la planète Terre. Il y a une fin. À un moment donné, le propriétaire là, de l'univers, comme je dis souvent, il va venir fermer la boutique. Il va fermer tout ça. Ça va arrêter. Ça, j'oserais même dire, ça va être traumatisant pour plusieurs. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, il y en a qui vont faire le saut. Et ces événements extraordinaires vont se faire d'une manière pour les croyants et d'une autre manière pour les non-croyants. Et pour les croyants, ce qui est dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 4, on voit ici, au son de la trompette de Dieu, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ça veut dire qu'il descend du ciel. et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, le Seigneur va descendre du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus vont ressusciter premièrement. Les non-croyants restent dans la terre. Et on pourrait dire que c'est la réunion de famille secrète dans les airs. N'est-ce pas? C'est cette rencontre face à face avec Jésus. Dans 1 Jean 3, 2, il est écrit, « Lorsque nous le verrons face à face, et nous le connaîtrons comme il nous a connus. » Et 1 Corinthiens 15 nous parle d'un nouveau corps incorruptible que nous allons avoir. La présence même du péché ne sera plus là. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que la croix de Jésus-Christ nous a sauvés de la punition du péché. Va nous sauver aussi de la puissance du péché, parce que on va dire non au péché qui si facilement nous enveloppe, puis un jour, la croix nous sauve de la présence même du péché. Ces trois P-là nous rappellent l'efficacité de la croix. Descendra du ciel, dans les airs, et le Seigneur Jésus va venir chercher les siens. On sera pour toujours avec le Seigneur. Et dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul qui est en train de dire aux Thessaloniciens qui se posent des questions, comment se fait ça, Jésus n'est pas encore revenu. Et là, Paul est en train de leur expliquer, ça va arriver, mais ça va arriver comme ça en premier. Consolez-vous donc par ces paroles, ceux qui sont décédés dans le Seigneur, ceux qui nous quittent avant qu'on parte, nous devancent pas, ensemble on va être enlevés dans les airs. C'est un grand sujet. Mais je voulais le mentionner ce matin, qu'on puisse ensemble apprécier cette belle promesse, que le Seigneur vient. Cette semaine, justement, j'étais assis, il faisait chaud, hein, puis j'étais sur la galerie en arrière, je regardais entre les nuages, puis je voyais des beaux nuages qui passaient, là, puis je me disais à moi-même, je me demande comment c'est mal. Est-ce qu'on va entendre juste, est-ce qu'on va voir quelque chose? Je ne sais pas, mais on va entendre, je voudrais la voix de Dieu qui nous appelle pour aller le rejoindre dans les airs. Vous pensez que ça va mal sur la terre présentement avec le COVID-19? Dites-vous en affaire, ça va bien aller, me convoie le Seigneur. Quelle merveilleuse promesse à s'attacher, n'est-ce pas? Héritier de la promesse de Dieu. Quel privilège que nous avons. Bienheureuse espérance. Ici, la bienheureuse espérance, l'épiphanie, ici, il nous parle de ce retour du Seigneur Dieu en gloire lorsqu'il va, comme un frère a dit ce matin, mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Et là, c'est cette bienheureuse espérance. Parce qu'on va être avec le Seigneur lorsqu'il va revenir. Et là, la terre va être bouleversée. Les non-croyants vont voir la puissance de Dieu. Ce n'est plus un agneau qui est venu là. Ce ne serait plus l'idée de l'agneau vient. C'est le lion, le roi. Et c'est celui qui va régler le problème une fois pour toutes et accomplir son plan rédempteur, son plan pour l'univers, son plan pour tout ce qui se passe sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Et toutes choses vont être recréées de nouvelles, qui est une longue histoire, mais qui vaut la peine d'y réfléchir, dans le sens que Dieu est en contrôle encore de toutes choses. Dieu est en contrôle. Il y a un plan et ça va arriver. Alors, l'effet de son retour est le retour A et le retour B, comme ceux qui ont fait l'étude EBE avec Jean Lépine. On doit réaliser la différence entre les deux. Il y a une nuance entre les deux très importante parce que c'est des promesses que Dieu a faites et qu'il va tenir. Gloire à Dieu. Manifestation. Tout le monde, j'imagine là, CNN, Fox, News... TVA qui sont là en train de regarder ça, ce qui se passe, là, ça va être tout un événement. Tout un événement. Le Seigneur qui va venir rétablir son 1000 ans de paix sur la terre, où ce que les hommes vont être devant lui, c'est tout un événement. Héritier de la promesse de Dieu. Héritier de cette promesse que Dieu, oui, va venir nous chercher et que Dieu, un jour, nous allons avec lui venir sur cette planète Terre. Alors, vous dites peut-être dans votre cœur, comme plusieurs le disent dans ce temps-là, « Ouais, mais comment ça, c'est pas arrivé encore? Il retarde donc bien. Le monde ne peut pas être plus méchant qu'il est là. Le Seigneur ne revient pas parce que le monde est moins méchant. Le Seigneur use la patience. Le Seigneur n'entend pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et là, on voit encore la patience de Dieu, on voit la promesse de Dieu, on voit que Dieu nous aime, aime l'humanité, la promesse à l'humanité, la promesse de la vie éternelle, la promesse que Dieu va prendre le temps qu'il faut pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer son royaume. Et Dieu ne retarde rien. Dieu a un plan. Tu sais, quand quelqu'un dit qu'il y a un plan, là, ça veut dire ça, qu'il y a un commencement puis il y a une fin. Il y a un milieu puis il y a la variante que souvent on ne comprend pas. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans puis 1000 ans comme un jour. Nous, on est dans l'espace-temps. On est comme des petits poissons rouges dans l'eau, là. On est dans notre bocal et puis la température de l'eau est importante pour nous. La lumière qui rentre, c'est important pour nous qui rentre dans notre petit bocal. Mais celui qui est en dehors du bocal, qui regarde les petits poissons rouges, lui, là, dis-toi une affaire, là, il ressent pas là, ses temps, ses variantes, ses couleurs. Il ressent pas de la même manière. Les choses ne se passent pas de la même manière pour les poissons rouges que la personne qui regarde les poissons. Alors, c'est une petite illustration juste pour vous dire, Dieu, là, il est en dehors de l'espace et du temps, en dehors de la matière. Et c'est pour cela qu'on essaie de raisonner Dieu de toutes sortes de manières, mais il faut savoir quelque part que Dieu est fidèle, il a un plan, puis il n'est pas dépassé par aucune situation que nous sommes en train de vivre. Et le Seigneur ici va affirmer, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Celui qui est, qui existe toujours, le Yahvé, le Je suis, hein? Et qui était celui qui est venu sur cette terre, c'est-à-dire l'incarnation, 100% homme, 100% Dieu, Jésus-Christ, est venu vers l'entrée de notre ère et est monté sur une croix pour expier nos péchés. Et par la foi seule dans son sacrifice, nous devenons enfants de Dieu. Et celui qui vient, quelle belle promesse, Jésus revient. Et il y a un monsieur Racine que je connaissais qui disait, « Jésus revient, es-tu prêt? » Il a même écrit un livre là-dessus. « Jésus revient, es-tu prêt? » Frères et sœurs, êtes-vous prêts? Seigneur revient. Est-ce qu'on changerait l'horaire de nos journées si le Seigneur revenait ce soir? Est-ce qu'on ferait les mêmes choses? Ou est-ce qu'on se préparerait? Ou est-ce qu'on commencera à faire les choses que Dieu veut qu'on fasse? Bonne question. Jésus revient. Septième promesse pour terminer, je ne vais pas être trop longtemps non plus. C'est parce que je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, donc je m'excuse si je prends un peu plus de temps. Promesse faite, promesse tenue. Promesse, les récipients des promesses, les croyants, je voulais mettre cela. À quelque part, la promesse que Dieu nous fait, c'est qu'on peut aller à lui. Vous vivez peut-être quelque chose présentement avec le contexte que nous vivons dans le monde. Dans le monde entier, oui, dans le Québec, les provinces, partout, c'est mondial. Et comme chrétien, Dieu a fait des promesses. Premièrement, il nous appelle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Peut-être que vous êtes fatigués, vous êtes tannés d'être confinés. Mais dites-vous une affaire, il y a du repos à avoir dans le Seigneur. Le repos entre les deux oreilles, j'appellerais moi. Pas nécessairement le repos physique. On fait toujours un peu d'insomnie lorsqu'on vieillit. Des fois c'est chronique, des fois c'est moins. Mais moi je parlerais du repos de l'âme, du repos en dedans, là, dans notre cœur. Entre les deux oreilles, là, t'es en paix avec Dieu, t'es en paix avec ceux avec qui tu peux être en paix, qui accepte la paix, et à quelque part, tu n'es pas chargé par des inquiétudes qui dépassent ta capacité de vivre les obstacles. Je vous donne du repos. Se reposer dans le Seigneur. Seigneur, je n'ai pas réponse à tout. Je me repose en toi pour ces questions que je n'ai pas les réponses. Seigneur, cette situation me dépasse. Je ne sais pas quoi faire. Mais je me repose en toi, Seigneur, parce que tu es au courant de ce que je suis en train de vivre personnellement. Je sais, Seigneur, qu'il n'y a pas un cheveu de ma tête qui tombe si tu ne le permets pas. Seigneur, donne-moi le repos entre les deux oreilles, dans mon esprit, dans mon âme. Même si j'ai fait des choses ignobles, même si j'ai fait des choses qui te déplaient, tu me dis, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste. En 1 Jean 1,9, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Alors, je dis comme Dieu, j'appelle le péché, c'est Dieu a dit, c'est péché, c'est péché. Alors, Seigneur, aide-moi à voir clair, aide-moi à bien saisir des choses. Le repos. Je vous donnerai du repos. Avoir du repos dans le Seigneur ne veut pas dire que je n'ai pas d'épreuve. Ne veut pas dire que je n'ai pas mal au dos, je n'ai pas mal aux genoux, je n'ai pas de dette, je n'ai pas de problème financier. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Je donnerai du repos, c'est le repos pour vos âmes. En dedans. Un repos. Et une des belles promesses, je terminais avec cela. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un de mes oncles qui est décédé, son cantique favori, c'était 90 Miles Line en anglais. Ah, ça c'est en allemand, mais je veux dire, il chantait en anglais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Mes amis, vous n'êtes pas seuls. Jésus est là. Frères et sœurs du Cap de Madeleine, Jésus est là. Vous n'êtes pas seuls. Vous avez vos frères, vos sœurs dans le Seigneur. Peut-être vous vous sentez négligé. Peut-être vous sentez que personne ne vous appelle. Mais même si vous vivez des temps d'isolement, plus ou moins, bien, vous n'êtes pas isolé. Jésus est avec vous. Jésus est en vous. Prenez le temps de le connaître. Prenez le temps de méditer sa personne. Prenez le temps d'apprécier ses promesses, de connaître Dieu avec ses noms composés, de connaître Dieu avec ses attributs, de connaître Dieu avec les promesses qu'il vous a faites. Puis prenez les promesses qui vous sont adressées à vous. Prenez pas les promesses qui ont été faites à Israël. Vous n'êtes pas Israël, vous êtes des enfants de Dieu et les promesses sont faites aux enfants de Dieu. Prenez pas la promesse de Satan. La promesse a été donnée à Satan, n'a pas été donnée à Israël, n'a pas été donnée aux enfants de Dieu, a été donnée à Satan. Prenez les promesses qui vous appartiennent. Mettez-les dans vos cœurs. Mettez-les dans votre cœur, les promesses. Puis dites-vous une affaire, même si ça va mal, même si tout semble aller de travers, le Seigneur est avec nous. Dans Jean 16, 33, le Seigneur dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir des tribulations dans le monde. Vous allez avoir de la pression. Et Jean va prendre le même terme dans Apocalypse 1,9 quand il va dire, moi, Jean qui ai part à la tribulation. Alors, la pression, tribulation, la pression fait partie de notre course céleste, fait partie de notre marche chrétienne. Parce que dans Hébreux 12, 1 à 3, il est écrit qu'on est dans une course à obstacles. Hein? Ayez le regard sur Jésus, l'auteur de notre foi. Et c'est lui qui mène la chose à la perfection. Cette course dans laquelle nous sommes, pas une course l'un contre l'autre, mais une course à obstacles. Et nos obstacles sont différents, dépendant où ce qu'on est rendu dans nos vies. Mais sachons une chose, la promesse de Dieu d'être avec nous est là. Elle se maintient. Avec vous tous, jusqu'à la fin du monde. Donc, pour moi, l'arc-en-ciel, lorsque je la vois, je pense à mon Dieu qui garde ses promesses. Promesse faite, promesse tenue. Dans ces temps difficiles, rappelons-nous, qui garde ses promesses? C'est notre Dieu. Prions. Seigneur, merci pour l'être ensemble. Que ta parole soit un baume et une nourriture pour nos âmes. Et donne-nous de saisir ces promesses, Seigneur, que tu as faites, de méditer ces promesses, d'apprécier ces promesses, d'apprécier ta personne dans tes attributs, d'apprécier, Seigneur Dieu, que tu n'es pas dépassé par aucune situation, de faire confiance avec la situation mondiale dans laquelle on vit présentement, et de faire confiance avec ma vie, avec nos vies. On sait, Seigneur Dieu, que tu n'es pas dépassé par aucune situation. Tu as un plan pour le monde, tu as un plan pour l'univers, tu as un plan pour chaque pays, tu as un plan pour chaque famille, tu as un plan pour chaque individu dans chaque famille, tu as un plan pour moi, tu as un plan pour mes frères et mes sœurs. Car tu es un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Un Dieu qui est rempli d'amour pour nous. Donc, Seigneur, fortifie notre foi et garde-nous près de tes promesses. À la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.